prêché le 22 mai 1960 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Ce message s'intitule « L'adoption ou la position dans le corps de Christ ».
That in the dispensation, oh my, here we come again. Oh, let's just pass it. Dispensation of the fullness of time. You believe in dispensation?
Yeah.
Bible said so. In the dispensation of the fullness of time. What is the fullness of time? There's been a dispensation of, there was a dispensation of the Mosaic Law. There was a dispensation of John the Baptist. There was a dispensation of Christ. There's a dispensation of church organization. There's a dispensation of the outpouring of the Holy Spirit. Now it's a dispensation of adoption, what the world's waiting, groaning. And when the fullness of time comes, when the dispensation of the fullness of time, what is that fullness of time? When the dead rises. When sickness ceases. When all the earth ceases to groan, the fullness of the dispensation of time. Watch this. When in the dispensation of the fullness of times, he might gather together in one all things in Christ. Aren't you glad? How are you going to do it? Gather together all things in who?
Bonjour, mes amis. Nous sommes très heureux d'être ici de nouveau pour vous saluer dans ce nom entièrement suffisant du Seigneur Jésus. Nous espérons que vous avez eu une semaine glorieuse, de louanges et de bénédictions. En entrant ici ce matin, j'ai rencontré un petit garçon qui m'a donné une petite plaque représentant l'ange gardien veillant sur deux petits-enfants. Et je ne savais pas que c'était un petit garçon des Dalton. Ici, il y a quelques semaines, il y a environ 2 semaines, un père chrétien présenta une requête pour sa fille, une adolescente qui n'était pas encore une chrétienne. Alors qu'il se trouvait dans la ligne de prière, le Saint-Esprit lui dit « Je te donne ton enfant ». Et la voici ce matin, sauvée et baptisée au nom du Seigneur Jésus, assise sur l'estrade, comme l'a dit le Saint-Esprit. Et les autres enfants sont assis tout autour, et je sais que la famille Dalton est heureuse. Je vois une jeune dame ici, il pria pour son bébé dimanche dernier, pensant qu'il allait mourir. Je vois qu'il est encore au milieu de nous ce matin, et nous en sommes si heureux, sœurs. Ils pensèrent qu'il avait une dystrophie musculaire, mais ce n'était pas le cas. Ainsi, nous sommes très reconnaissants de voir tous nos bons amis. Je me souviens de cet homme ici qui était venu vers moi pour une entrevue particulière à Chautauqua. Je crois que c'était là. Je déjeunais avec vous, votre femme et vos enfants. Je crois, ou vous et votre femme, oh oui, vos enfants aussi, à Middletown. J'oublie ce nom, c'est pourquoi je l'appelle simplement Chautauqua. Oui, monsieur. Beaucoup de mes bons amis, frère Charlie Cox et sœur Nelly, ici, ont été un deuxième foyer pour moi. Ils pourraient être mes propres enfants. Je vais là-bas et c'est là que je passe la majeure partie de mon temps de détente. C'est le meilleur chasseur d'écureuils au Kentucky, tandis que je le suis en Indiana. Charlie, laisse-moi te dire que j'ai terriblement envie d'attraper quelques-uns de ces petits crabes ou de ces perches zébrées avant que je commence là-bas. J'ai vraiment l'impression que je pourrais en supporter beaucoup. Frère Barnell, Arnett de Caroline du Sud et frère, oh, ce matin, il y en a tellement qui sont venus ici de différents endroits pour nous rencontrer. Ici, vous savez que nous n'avons pas de membres comme on l'entend habituellement. Nous ne faisons que communier les uns avec les autres, tandis que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de toute iniquité. Nous avons maintenant une merveilleuse étude. C'est tout simplement glorieux. Et nous, du moins moi, j'en jouis et je sais que vous êtes aussi édifiés. Je commence quelquefois, pendant le jour, à en parler ou à lire quelque chose à ce sujet, je prends à peu près deux versets et je me mets à parcourir l'Écriture. Et finalement, je réalise que je l'ai parcouru de la Genèse à l'Apocalypse et que je n'ai pas fini. Vous savez, j'aimerais prendre le temps pour que nous puissions parler du livre des Hébreux et le prendre comme, eh bien, dès la saison des écureuils, vers août-septembre jusqu'à mon départ outre-mer, j'aimerais vous entretenir chaque soir sur le livre des Hébreux ou le livre de l'Exode, montrant de quelle manière Dieu, dans l'Exode, a conduit son peuple hors d'Égypte. Un Exode, c'est un très beau type de nous qui maintenant nous préparons à notre Exode. C'est une chose si belle. L'Écriture entière s'accorde en une glorieuse histoire. Maintenant, ce matin, nous sommes toujours dans le livre des... Nous allons prendre les trois premiers chapitres du livre des Éphésiens. La lettre de Paul aux Éphésiens, essayant de placer l'Église dans sa position. Et juste avant cela, prenons encore le temps de prier. Ô Seigneur notre Dieu, nous entrons dans ta présence maintenant. Aussi indignes que nous sommes, cependant, nous savons qu'il y a là un sacrifice sanglant qui attend et qui nous purifie de toute impureté et nous présente devant le Père irrépréhensible et sans défaut. Il n'y a rien que nous aurions pu faire pour mériter ceci, mais parce que Jésus l'a fait pour nous. Nous nous inclinons humblement devant sa présence et son nom pour te demander d'envoyer le Saint-Esprit ce matin au milieu de nous. Je ne suis pas un théologien et je ne sais pas dans quel ordre disposer l'Écriture, mais je suis seulement enthousiasmé et reconnaissant de sentir le Saint-Esprit se manifester au travers de mon être. Puisse-t-il nous bénir tous ensemble alors que nous lisons ta parole écrite, afin que cela nous apporte la vie éternelle. Accorde-le, Père, nous te le demandons au nom de Jésus et par amour pour lui. Amen. Amen. Maintenant, j'aimerais dire ceci premièrement, que s'il arrivait que je dise quelque chose de désagréable, qui ne soit pas exposé correctement ou qui paraisse peut-être faux par rapport à votre enseignement, que ce soit quelque chose avec lequel vous ne puissiez pas être d'accord, je fais confiance au Saint-Esprit pour qu'il l'accommode et le rende si doux que cela ne blessera personne. Voyez-vous, afin que cela soit fait avec amour et communion, car c'est ainsi qu'il le veut. Tout ceci a commencé avec le sermon de dimanche dernier, lors de la prédication du matin, je crois, sur le roi rejeté. Quelqu'un a-t-il déjà la bande? Je pense qu'ils ont maintenant et que vous pouvez les obtenir, si vous le souhaitez. Le roi rejeté. Encore quelques jours et nous commencerons à Middletown, dans l'Ohio. Nous voulons que tous ceux qui ont leurs vacances fixées à ce moment-là sois sûr de nous rencontrer là-bas, parce que nous nous attendons à avoir un temps béni de communion à Middletown, dans l'Ohio. Docteur Sullivan est, je crois, le président du comité. Il y aura 5 soirées de réunion. Je suis invité à prêcher à la Convention internationale de l'Église interdénominationnelle. Ensuite, nous aurons nos propres réunions. Nous les avons prévus jusqu'au 12, mais j'ai compris qu'il se peut que nous les continuions pendant une semaine supplémentaire. Cela dépend de la manière dont le Saint-Esprit conduira. Nous voulons tous être conduits par l'Esprit. Ce que l'Esprit dit de faire, faites-le rapidement. Et souvenons-nous que tandis que nous obéissons à l'Esprit, une grande leçon que nous voulons apprendre, c'est de ne rien faire avec précipitation. Voyez-vous, prenez votre temps, ayez la foi. Si nous avons demandé quelque chose à Dieu, souvenez-vous que Dieu répond aux prières. Il le fait dans son temps à lui, de la meilleure façon. Il le fait se réaliser parfaitement pour nous. Et si ce n'est pas ainsi, Alors que faisons-nous ici ce matin? Pourquoi nous réclamons-nous du christianisme? Si ceci n'est pas la parole de Dieu, alors, si elle n'est pas vraie, alors nous nous trouvons parmi les gens les plus misérables. Je suis si content que nos cœurs soient unis avec beaucoup ici qui savent que ceci est l'infaillible parole de Dieu. Alors, chaque parole, chaque mot, chaque locution est la vérité. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu le privilège de voir le pays vers lequel nous irons un jour. Hier, les gens ne savent pas ce qu'il y a comme moments déprimants qui viennent dans ce genre de ministère. Je suis devenu très déprimé et j'ai dit à mon épouse, « Je souhaiterais pouvoir m'en aller. » Elle dit, « Pourquoi dis-tu cela, Bill ?» Je lui répondis, « Oh, ici j'ai toutes sortes d'ennuis. » Et alors, il m'a semblé que le Saint-Esprit disait, « Essayes-tu de les contourner? Essayes-tu de les éviter? » Voyez-vous, « Non, dis-je, laisse-moi faire face à tout cela. » Voyez-vous, c'est tellement mieux. Honnêtement et en vérité, je dis ceci par un témoignage oculaire, que juste après que cette vie soit terminée, nous entrons dans un pays qui est au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Et s'il y a ici des étrangers, j'espère que vous ne me... Je prie Dieu que vous ne me considériez pas comme un fanatique. Je désire être honnête et dire la vérité. Quel bien cela me ferait-il de dire quelque chose de faux, quand il y a tellement à dire sur ce qui est vrai? Pourquoi devrions-nous dire quelque chose de faux à ce sujet? Voyez-vous, c'est la vérité. Et ce n'est pas étonnant. Je crois que Paul fut enlevé jusqu'au troisième ciel et qu'il vit des choses qu'il ne lui était pas permis d'exprimer. Et un jour, il dit, ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oh, nous vivons ici dans un tas d'ordures, c'est tout. Ce n'est qu'un monceau de détritus, rempli de fumée lourde venant de cette saleté. Même si nous ne sommes pas contaminés, nous-mêmes, nous vivons là-dedans, à l'endroit d'où vient la fumée, des émeraudes fumantes du péché. Une des choses les plus écœurantes auxquelles je puisse penser, c'est à une vieille décharge publique qui brûle. Vous êtes-vous déjà trouvé près de l'une d'elles lorsque cette horrible odeur contaminée de fumée monte au travers de toutes sortes de saletés et que vous la respirez? Cela vous rend malade. Je me souviens avoir dû aller à New Albany, en dessous de la 18e rue, là où la vieille décharge se trouvait, pour encaisser et lire les compteurs. J'appréhendais le jour où c'était la ligne 18 et que je devais aller là-bas à cause de cette horrible odeur. Et il y avait là des corps de rats crevés et de chiens et tout le reste, vous savez, qui brûlaient lentement et cette fumée sortait de là. Et pourtant, c'est à ceci que le meilleur de cette vie peut être comparé. Une lente combustion. On peut sentir le péché de partout, de même que cela, spirituellement parlant. Mais oh, juste de l'autre côté de la rivière, le vent souffle librement, et tout est beau, paisible et joyeux. Et il y a la vie éternelle. Mais nous sommes dans une bataille. C'est pourquoi ne restons pas couchés et ne disons pas, dépêchons-nous d'aller là-bas, prenons tous ceux que nous pouvons avec nous. Oui. Et maintenant, le but de ces leçons est d'ancrer ceux qui sont déjà entrés dans le pays. Le but que nous avons d'étudier ce livre des Éphésiens, c'est de placer l'Église dans sa position où elle doit être exactement en Christ. C'est un type de l'Ancien Testament, lorsque dans le livre de Josué, celui-ci répartit, nous l'avons vu dimanche dernier, quand Josué répartit les terres à chaque homme. Et il le fit par inspiration. Moïse conduisit le peuple hors d'Égypte. dans un endroit où Dieu avait promis de les amener 400 ans auparavant, soit dans un bon pays dans lequel coulait le lait et le miel. Moïse conduisit les enfants d'Israël jusqu'à ce pays, mais il ne les fit pas entrer. Et Jésus, dans le spirituel, fait de même avec les gens auxquels il avait été promis le Saint-Esprit depuis le commencement. Jésus nous a conduits jusqu'à la promesse, mais le Saint-Esprit est venu, comme l'a fait Josué, pour continuer et nous conduire, nous diriger et nous faire entrer en possession du pays ou dans l'Église. Nous découvrons en substance que dans notre « maintenant c'est ici que les gens vont peut-être penser que je suis fruste et que je manque d'égard envers des frères, mais ce n'est pas le cas. Que Dieu soit mon juge, ce n'est pas le cas. » Voyez-vous, j'essaye seulement de faire remarquer quelque chose qui est la vérité. Voyez-vous, nous avons choisi la conduite de l'homme plutôt que la conduite du Saint-Esprit. Nous avons voulu des hommes pour nous attribuer notre part et nous conduire. Et que des dénominations comme les méthodistes, baptistes, presbytériens, luthériens, Église de Christ, pentecôtistes et différentes dénominations créent une organisation comme exemple et nous suivons cela. Mais nulle part dans la Bible, il nous est dit de faire une telle chose. Il n'y a pas un passage de l'Écriture dans toute la Bible de Dieu où il est jamais organisé une église, où il est parlé d'une organisation. Nulle part dans la Bible. C'était toujours contraire à cela. Il ne veut pas que nous soyons formés comme le monde l'entend. Il veut que nous soyons singuliers, mis à part. Je ne veux pas dire qu'il faut être ça, comme on dit, mais je veux dire un peuple qui a été appelé à sortir. Oh, une nation bénie et sainte, dont les vies sont au-dessus de tout reproche. Agissant, nous conduisant comme lui le ferait, lorsqu'il agit en nous, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Mercredi soir, beaucoup d'entre vous n'étiez pas ici, mercredi soir, mais nous avons parlé du... Je crois du verset 3, non, c'était le verset 5, sur l'adoption ou le placement des gens, montrant de quelle manière Dieu essaye de placer son peuple. Et quand Dieu place une personne, alors tous dans l'Église veulent être comme elle, avoir les mêmes choses, faire les mêmes choses. Nous sommes taillés différemment, nous sommes faits différemment, nous avons des natures différentes et nous sommes placés dans une position différente. Chacun pour un travail différent. Peut-être que l'un devra accomplir un travail modeste et l'autre un travail plus conséquent. Je crois que c'est David ou l'un des prophètes, j'ai oublié maintenant, qui a dit « Je préfère me tenir sur le seuil de la maison du Seigneur plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Maintenant, nous allons nous arrêter une seconde sur l'adoption, le verset 5, pour essayer de l'approfondir le plus possible. Mais maintenant, souvenez-vous du thème, c'est entièrement sur le placement. Combien comprennent cela? Répétez avec moi. Placer le corps de Jésus-Christ dans sa position en Christ, là où le Saint-Esprit nous conduit. Vous y êtes. Maintenant, vous l'avez. Voyez-vous, nous plaçons en Christ. Le livre des Éphésiens poursuit ce but. Observez ce maître, docteur Paul. La première chose qu'il fait, c'est de faire sortir de votre esprit toutes les idées relatives à la possibilité de tomber. Faire sortir toutes les idées me conduisant à croire qu'aujourd'hui je suis un chrétien et que demain c'est fini, et que le jour suivant Dieu me condamne, et que le jour d'après je suis à nouveau à lui. C'est un non-sens. Maintenant, ce livre n'est pas destiné à de l'enseignement évangélique ou à des sermons d'évangélisation. Je ne parle pas de ceci en mission. Je l'apporte à l'Église. Car Paul l'a adressé aux saints, c'est-à-dire à ceux qui sont appelés, gardés, remplis, mis à part, et qui sont dans le Saint-Esprit et déjà dans le pays de Canaan. Il essaye de leur dire premièrement, « Faites sortir de vos esprits que vous serez perdus, que vous allez faire ceci et que vous avez peur de cela. N'ayez peur de rien. » Car il essaye seulement de vous dire où vous vous trouvez, qui vous êtes et comment vous êtes. Vous ferez peut-être des choses d'une façon fausse, et chaque fois que vous faites quelque chose de faux, vous allez le payer. Oui, monsieur, vous récolterez ce que vous aurez semé. Mais cela n'a rien à voir avec votre salut. Quand vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous avez reçu la vie éternelle, et vous ne pouvez pas plus mourir que Dieu peut mourir. Vous êtes une partie de Dieu, vous êtes un fils de Dieu. Je suis né un Branham, vous pouvez me donner un autre nom, mais un autre nom ne fera pas de moi un Branham de moins. Je suis toujours Branham, je suis né Branham, je serai toujours Branham. Je serai peut-être si défiguré un jour pour être plein d'arthrite ou pour avoir eu un accident ou être déchiqueté jusqu'à ressembler à un animal, mais je serai toujours Branham. Pourquoi? Le sang de Branham est à l'intérieur. C'est ce que vous êtes. Et aussi longtemps que Dieu vous a fait, maintenant souvenez-vous que je ne parle pas à ceux qui sont en dehors de Christ. Je parle à ceux qui sont en Christ. Amen. Comment entrez-vous en Christ? Dans un seul esprit. Amen. Amen. E majuscule S-P-R-I-T. Ce qui veut dire que dans un seul Saint-Esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Amen. Comment entrons-nous? Par le baptême d'eau, combien désagréable je suis avec vous, Baptiste, et vous, Église de Christ. Non, par le baptême d'eau, en aucune manière. 1 Corinthiens 12 dit, par un seul esprit, Saint-Esprit, nous sommes amenés dans ce corps, et nous sommes aussi en sécurité que ne l'est ce corps. Dieu a promis cela. Comment Dieu pourrait-il le juger à nouveau? Alors qu'il alla au calvaire, à Golgotha, il fut battu, meurtri, il ne pouvait pas guérir, il ne pouvait presque pas dire un mot. Pourquoi cela? Il avait les péchés du monde sur lui. Pas parce qu'il était un pécheur, mais il fut fait péché pour moi et pour vous. Amen. Tous les péchés de ce monde, depuis Adam jusqu'à sa venue, reposait sur son épaule. Dieu ne punissait pas son fils, il punissait le péché. Regardez combien c'était horrible. Il faisait expiation. Il préparait une échappatoire pour tous ceux que Dieu, par sa préscience, savait qu'il viendrait. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Ainsi, quand vous êtes dans un seul esprit, nous sommes baptisés dans ce corps. Un corps qui est Christ, et nous sommes en sécurité pour toujours. Maintenant, c'est ceux qui sont frappés étrangement, et spécialement les croyants arméniens, qui croient devoir faire quelque chose pour mériter leur salut ou servir de médiation. Comment cela peut-il se faire par deux choses en même temps? C'est soit par la grâce ou par les œuvres. Cela ne peut pas être par deux choses différentes. Cela doit être par une seule chose. Je ne peux rien voir d'autre que la grâce de Dieu. C'est ma conception. J'ai toujours cru en sa grâce. Pour moi, tout est grâce, absolument tout. Ce n'est pas, même dans ma vie, quand j'étais un garçon, je ne pouvais rien voir d'autre. La grâce et encore la grâce. Ils disent, si tu grattes mon dos, je te gratterai le tien. C'est une expression terrible. Pour moi, peu m'importe si vous grattez le mien ou pas, si le vôtre a besoin qu'on le gratte, je le gratterai de toute façon. Voyez-vous, la grâce, oui monsieur, la grâce est agissante par l'amour. Si vous en avez besoin, peu importe, si vous n'avez jamais rien fait pour moi, cela n'a rien à voir. Si vous en avez besoin, je le ferai de toute manière. La grâce, parce que vous en avez besoin. J'avais besoin d'être sauvé. Il n'y avait rien que je puisse, qui puisse me sauver. Il n'y avait rien que je puisse faire moi-même. Je ne pouvais pas plus me sauver que rien au monde. Mais j'avais besoin d'être sauvé, parce que je croyais dans un Dieu. Et Dieu envoya son Fils, fait à la ressemblance de la chair pécheresse, pour s'ouvrir à ma place. Et c'est par la grâce seule que je suis sauvé. Il n'y avait pas une seule chose que j'ai pu faire, ou que vous puissiez faire pour vous sauver. Et tous ceux qu'il connut d'avance, avant la fondation du monde, nous en avons parlé, mercredi dernier. Nous avons présenté Dieu comme Eli, Elohim, et nous avons montré qu'il existait par lui-même. Mais qu'en lui se trouvait la qualité d'un père, en lui se trouvaient différentes qualités, telles que celle de sauveur, celle de guérisseur, et que tout cela était en Dieu, que Dieu existait par lui-même. Mais étant donné qu'il était un sauveur, il n'avait pas d'ange, il n'avait rien. Il n'y avait rien à part lui. Il existait par lui-même. Rien d'autre n'existait à part Dieu. Mais étant donné qu'il était Dieu, alors il devait y avoir quelque chose pour l'adorer, parce qu'il aimait l'adoration. Et lui-même fit des créatures pour l'adorer. Maintenant, en passant, parlons-en de nouveau. Juste en passant, nous n'allons pas reparler de tout, car vous l'entendrez sur les bandes. Ainsi, parce qu'il était Dieu, il créa des anges, et les anges l'adorèrent. Les anges l'adorent toujours. Les anges qui se tiennent dans la présence de Dieu ont trois paires d'ailes, c'est-à-dire six ailes. Deux dont ils se couvrent la face, deux dont ils se couvrent les pieds, et deux dont ils se servent pour voler dans sa présence, criant jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » C'est ce que l'Écriture dit. Ils l'adorèrent. Ainsi, quelque chose fut créé pour l'adorer. Puis en lui se trouvait un attribut de sauveur. Comment une de ces créatures pouvait-elle, alors que le péché n'existait pas, ou que l'on ne pensait pas au péché, comment l'une d'elles pouvait-elle être perdue? Cela ne se pouvait pas. Ainsi, il devait y avoir quelque chose de créé qui peut être perdu, afin qu'il puisse être un sauveur. En lui était un guérisseur. Croyez-vous qu'il était un sauveur? Croyez-vous qu'il soit un guérisseur? Eh bien, à quoi cela servirait-il s'il n'y avait rien à sauver ou à guérir? Voyez-vous? Il devait y avoir quelque chose créé ainsi pour... Cependant, il ne l'a jamais fait de cette façon. Il a laissé l'homme libre de choisir. Si vous prenez ceci, vous vivrez. Si vous prenez cela, vous mourrez. Et tout homme qui vient dans le monde est placé devant le même choix. Dieu, par sa préscience, savait qu'il serait sauvé et qu'il ne le serait pas. Si Dieu était, la question me fut posée hier par un théologien qui avait suivi les réunions ou écouté les bandes. Il me posa cette question. Dieu est-il omniprésent? Alors, dit-il, il peut être partout. Je lui répondis, il n'est pas omniprésent dans le sens que l'entend le mot omniprésent. Il ne peut pas être un être et alors être omniprésent. S'il est omniprésent, pourquoi priez-vous pour le Saint-Esprit? S'il est omniprésent, il remplit chaque fente, coin, crevasse, chaque cellule, fibre et tout le reste. Je lui répondis, pourquoi est-il parti à la recherche de Moïse à la fin, s'il est omniprésent? Pourquoi a-t-il parcouru de long large le jardin d'Éden en criant « Adam, Adam, où es-tu » s'il est omniprésent? Il est omniprésent parce qu'il est omniscient. Il sait toutes choses parce qu'il est infini. Étant infini, cela le rend omniprésent. Étant omniprésent, alors, étant infini, il demeure dans les cieux. Il demeure à un endroit parce qu'il est un être. En étant infini, il connaît toutes choses. Il sait chaque fois qu'un moustique cligne de l'œil. Il connaît le chemin de chaque bourdon qui se dirige vers le rayon pour y chercher son miel. Il connaît chaque moineau qui est perché dans l'arbre. Il connaît chaque pensée qui est dans votre esprit, parce qu'il est infini et omniscient. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement infini, il est aussi omniscient. Il sait tout, mais il est un être. Dieu est un être. Et hors de cet être commencent à être manifestées ces choses. Et le péché, j'ai dit l'autre soir que le péché n'est pas une création. Rien ne fut créé si ce n'est la perfection. Dieu créa toutes choses bonnes. Le péché n'est pas une création. Ils disent, eh bien, c'est la création même du péché. Vous avez entendu cela? Eh bien, c'est une erreur. Le péché, il n'y a qu'un créateur, c'est Dieu. Dieu ne pouvait pas créer le péché parce qu'il est saint et qu'il n'y a rien en lui pour faire cela. Le péché est une perversion. Pas une création, mais c'est une perversion. Un adultère est un acte juste perverti. Un mensonge est la vérité dite mal. N'importe quel péché est la droiture pervertie. C'est pourquoi Dieu place, il s'est déjà manifesté, il est Dieu. Il s'est déjà manifesté en tant que sauveur. L'homme était perdu et il le sauva. Il s'est déjà manifesté en tant que guérisseur. Cela ne fait aucune différence que les gens disent qu'il ne l'est pas. Il est de toute manière. Il est un guérisseur. Il est un sauveur. Il est Dieu. Il est éternel. Et il a un dessein. Et son dessein était au commencement de créer des créatures qui allaient l'aimer et l'adorer. Il fit des créatures et celles-ci tombèrent. Alors Dieu, étant infini, regarda au travers du courant du temps et vit chaque homme qui serait sauvé. Chaque homme qu'il connaissait par sa prescience. C'est pourquoi, s'il connaissait par sa prescience qui serait sauvé et qui ne le serait pas, il pouvait prédestiner. Ainsi, ce mot n'est pas un mot si terrible après tout, n'est-ce pas? Il pouvait prédestiner parce qu'il savait qui serait sauvé et qui ne le serait pas. C'est pourquoi, afin de saisir ceux qui seraient sauvés, il devait faire propitiation pour leurs péchés. Oh, si nous pouvons, nous allons arriver à cela. Juste quelques versets plus loin. Il est dit qu'il nous a prédestinés à la vie éternelle, connaissant ceux qui mettraient tout de côté pour le suivre. Et combien négligeable cela paraîtrait aux enfants du monde, cela n'aurait pas d'importance pour eux, parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Il les a appelés et envoya Jésus afin que son sang puisse faire office d'expiation. Une expiation par le sang qui sert de propitiation, une exemption ou une purification, un processus de purification permanent. Pas seulement en action une fois lors d'un réveil, mais agissant à jamais, faisant des intercessions afin que le chrétien soit gardé pur jour et nuit. Il y a le sang de Jésus-Christ qui fait propitiation sur la croix, là-bas, dans la présence de Dieu, et qui nous purifie constamment, jour et nuit, de tout péché, et nous garde en lieu sûr. Gardez comment? Par le Saint-Esprit dans le corps du Seigneur Jésus, où nous sommes en sécurité. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, elle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Plus de jugement. Le chrétien ne va jamais en jugement. Christ y alla pour lui. Mon avoué a pris ma place. Il a plaidé mon cas, disant que j'étais ignorant. Il dit au Père que je n'étais pas digne et que j'étais ignorant, mais il m'a aimé. Il a pris ma place et a plaidé mon cas, et aujourd'hui je suis libre. Amen. Oui, monsieur, il répandit son sang qu'il offrit là-bas pour nos péchés. Souvenez-vous de mercredi soir dernier. Aucun chrétien ne pêche, et un pécheur ne peut pécher. Un pécheur ne pêche pas parce qu'il est un pécheur. Il est un pécheur pour commencer, et c'est tout. Ici, prenez ce livre, le dos de ce livre. Il est noir. Quelle partie y a-t-il de noir? C'est tout noir. Il n'y a là pas de blanc, c'est noir. Vous dites, cette partie ici, non, ce n'est pas vrai, le tout est noir. Il est tout noir. C'est ainsi qu'est un pécheur. Il est condamné dès le commencement. Vous dites, que se passe-t-il s'il commet adultère? Que se passe-t-il s'il viole une femme? Que se passe-t-il s'il joue au jeu? Que se passe-t-il s'il tue quelqu'un? Ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre affaire. Nous avons ici des lois pour s'occuper de cela. Nous ne sommes pas des réformateurs. Nous sommes des prédicateurs de l'Évangile. Nous ne le condamnons pas pour ce qu'il a fait. Nous ne le condamnons pas pour avoir commis adultère. Nous le condamnons parce qu'il est un pécheur. S'il était un chrétien, il ne le ferait pas. C'est vrai. S'il était changé, il ne ferait pas cela. Mais parce qu'il est un pécheur, c'est la raison pour laquelle il fait cela. Voilà qui fait tomber les supports de dessous les légalistes. Oui, monsieur, frère, laissez-moi vous dire que ce n'est pas par les œuvres, mais par la grâce que nous sommes sauvés, et cela par la foi. Oui, monsieur. Maintenant, je ne condamne pas les frères légalistes. Ce sont mes frères et ils seront là-bas de la même manière que tous les autres, parce que Dieu a préordonné que son Église y soit. Mais avec vos propres conceptions, vous ne faites que garder les gens déchirés. Ils ne savent pas que faire aujourd'hui. Eh bien, peut-être que si je... Dites-leur simplement qu'aussi longtemps qu'ils ont faim du monde, ils ne sont premièrement pas là-bas. Je ne reste pas fidèle à ma femme parce que je pense qu'elle divorcerait avec moi. Je reste fidèle à ma femme parce que je l'aime. C'est une position légale que nous avons prise, montrant que nous nous aimons. Mais premièrement, avant que cela puisse en arriver là, il dut y avoir un amour. Je l'aime. Bien que je croie que si j'ai fait quelque chose de mal, elle me pardonnerait, malgré cela, je ne le ferais de toute façon pas. Je l'aime. C'est ainsi avec Christ. Si je vivais, j'ai 50 ans, si je vivais jusqu'à l'âge de 90 ou 100 ans, et que j'ai encore 50 ans à prêcher, et que je ne prêche pas une seule fois, mais que j'aille m'asseoir au bord de la rivière, je serai sauvé de toute manière. Dieu m'a sauvé par sa grâce imméritée de tout ce que je pourrais faire une fois. Je prêche parce que je l'aime et que j'aime son peuple, et c'est la raison pour laquelle je sais que je suis passé de la mort à la vie, parce que je les aime. Je vais à eux, de toute manière, peu importe dans quelles conditions elles sont, allez les chercher de toute façon, parlez-leur de toute façon. Si des prédicateurs ne sont pas d'accord, que d'autres ne soient pas d'accord et que des dénominations ne soient pas d'accord, cela ne m'arrête pas. Il y a quelque chose, cela ne l'a pas arrêté. Il est venu juste au milieu de l'incrédulité, mais cela ne l'arrêta pas. Il alla de toute manière de l'avant. C'est ce que nous faisons. Sortez et allez les chercher. Rejoignez-les, peu importe ce que les autres pensent. Tendez la main, agrippez-vous, cramponnez-vous de toute votre force. Vous ne savez pas qui ils sont. Sauvez-les par amour. Pas à cause que je dois le faire, mais parce que j'aime. Parce que vous aimez. Vous dites, je devrais aller rectifier cette chose avec cette femme, parce que je vais à l'église. Je pense que ce serait bon de le faire. Non, vous êtes celui qui devrait premièrement se mettre en ordre. Voyez-vous? Vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre cœur. Quelque chose vous fait savoir que vous êtes dans l'erreur. Alors vous allez le mettre en ordre avec Dieu. Puis vous irez le mettre en ordre avec votre voisin. Jésus enseigna cela. Il dit que si vous venez à l'autel et que vous vous souveniez que vous avez quelque chose contre un voisin ou un frère, que vous devez premièrement mettre cela en ordre. Maintenant, dans les âges à venir, nous l'avions mercredi soir, les manifestations, nous l'avons de nouveau ce matin, la manifestation des fils de Dieu. En d'autres termes, Dieu attend. Et alors, à la fin des temps, quand nous nous tiendrons tous devant lui, les anges n'étaient pas perdus. Ils ne sauront pas comment se réjouir des bénédictions comme nous le ferons. Ils ne furent jamais perdus. Mais je sais d'où je viens. Je connais le rocher d'où j'ai été détaché, un pécheur. Vous savez d'où vous avez été détaché. Maintenant, comme nous sommes retrouvés, alors nous pouvons nous tenir devant Dieu. Oh, quel jour ce sera! Alors l'adoption, le placement. Maintenant, Dieu fait ce travail d'honneur. Alors, si je peux vous apporter ceci, alors nous commencerons depuis là. Maintenant, le verset 5, je vais le lire. Nous ayons prédestiné à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est le plaisir de Dieu de faire sa volonté. Adopter. placé. Maintenant, que fait-il? Il place son Église. Premièrement, il a appelé son Église. Les méthodistes, les presbytériens, les luthériens, les baptistes, il les a appelés. Ensuite, qu'a-t-il fait? Il a envoyé le Saint-Esprit. Elle leur a donné le baptême du Saint-Esprit. Je veux que vous, les pentecôtistes, fassiez sortir ceci de vos cœurs. La Pentecôte n'est pas une dénomination. La Pentecôte est une expérience. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une organisation. Vous ne pouvez pas organiser le Saint-Esprit. Il ne soutiendra pas ceci. Maintenant, vous avez une organisation que vous appelez de ce nom. Mais le Saint-Esprit sort et vous laisse assis là où vous êtes. Puis il continue à avancer. Voyez-vous? La Pentecôte n'est pas une organisation. La Pentecôte est une expérience. Alors Dieu donna à ses enfants la nouvelle naissance par le baptême du Saint-Esprit. Ils vinrent tout près de cela lorsqu'ils se purifièrent au travers des Nazaréens, pèlerins de la sainteté. Et ensuite, ils arrivèrent à l'expérience de la Pentecôte, avec le baptême du Saint-Esprit et la restauration des dons. Ils allèrent en parlant en langue, en interprétant les langues, en manifestant les dons de guérison, des miracles et des signes suivirent. Maintenant, ce sont des enfants. Ce sont des enfants de Dieu. Ils sont en Christ. Ils deviennent des enfants par la naissance. Et la conversion est la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Vous n'êtes même pas converti avant d'avoir le Saint-Esprit. C'est ce que dit l'Écriture. C'est ce que Jésus dit à Pierre. Demandez à n'importe qui, lisez votre Bible. Il fut justifié pour avoir cru au Seigneur Jésus. Il devint un disciple, un apôtre. Jésus lui donna les clés du royaume. Et dans Jean 17, 17, il les sanctifia, leur donna la puissance, les envoya chasser les démons, etc. Il les sanctifia. Sanctifie-les, Père, par ta vérité. Ta parole est la vérité. Je me sanctifie moi-même à cause d'eux. C'est un des mots les plus doux que j'ai jamais entendus. Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Amen. Savez-vous qu'il avait le droit d'avoir un chez-soi? C'était un être humain. Savez-vous qu'il avait le droit d'avoir une femme? C'était un homme. Il avait droit à toutes ces choses. Mais il a dit, Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Je me sanctifie moi-même. J'ai parlé hier à un prédicateur. Je vais prêcher chez lui dans quelques jours, ici sur la grande route. Je lui ai posé une certaine question et il a répondu, oui, frère Branham, mais la plupart de mes gens ne croient pas cela. Je lui dis, la plupart d'entre eux sont des légalistes. Oui. Le frère ne croit pas cela. Mais il a dit, pour eux. Oh, je voulais lui sauter au cou. Pour eux. Je me sanctifie moi-même pour eux. Oh, Jésus formait 12 hommes afin que ceux-ci puissent apporter l'Évangile au monde. Et il a dit, pour eux, je me sanctifie moi-même. Sanctifiez-vous pour vos voisins, pour quelqu'un d'autre. N'utilisez pas votre liberté comme manteau, dit Paul, mais sanctifiez-vous vous-même. Conduisez-vous dans le voisinage comme devrait le faire un véritable chrétien. Que vos contacts soient, si vous rencontrez votre ennemi, sanctifiez-vous vous-même pour lui, ne sachant pas ce que vous pourriez faire. Maintenant, placez le Fils. Dès que l'enfant naissait, il devenait un fils. Mais nous voyons que c'est sa conduite qui le conduisait à l'adoption. Le fait qu'il se soit conduit bien ou mal. Et c'est les pentecôtistes. Maintenant, laissez-moi vous montrer que la Pentecôte n'est pas une dénomination. Combien y a-t-il de baptistes ici qui étaient baptistes et qui ont reçu le Saint-Esprit? Faites voir votre main. Voyez-vous? Combien y a-t-il de méthodistes ici qui ont reçu le Saint-Esprit? Levez la main. Combien y a-t-il de Nazaréens ici qui ont reçu le Saint-Esprit? Levez la main. De presbytériens. qui ont reçu le Saint-Esprit. Voyez-vous, de luthériens, d'autres dénominations qui n'appartenaient pas à la Pentecôte et qui ne faisaient qu'appartenir à une dénomination, mais qui ont reçu le Saint-Esprit. Faites voir votre main. Voyez-vous, ainsi, la Pentecôte n'est pas une dénomination, c'est une expérience. Maintenant, Dieu vous a pris dans le corps de Christ. Maintenant, que fait-il? Après que vous vous soyez affirmés et sanctifiés par votre bonne conduite, que vous ayez obéi au Saint-Esprit, peu importe ce que le monde dit, je vais faire vraiment bien pénétrer ceci, voyez-vous, parce que ce n'est pas mon intention d'être dur. S'il vous plaît, ne pensez pas que je suis mesquin. Je ne veux pas être ainsi. Ce qui me fatigue, c'est d'entreprendre les gens, de leur prêcher cette vérité envoyée par Dieu, et ensuite de les voir faire demi-tour et continuer à penser et agir comme avant et prétendre qu'ils ont le Saint-Esprit. Cela vous déprime terriblement, voyez-vous? Que se passe-t-il? Ils retournent à la même chose, de même que les enfants d'Israël qui voulaient un roi, afin que ce roi pût dominer sur eux et les faire agir comme les Amoréens, les Amalécites et les Philistins. Savez-vous, mesdames, que c'est faux de porter les pantalons? Le savez-vous? Savez-vous que c'est faux de couper les boucles de vos cheveux? Savez-vous que c'est faux, monsieur, de continuer à fumer et à agir comme vous le faites? Savez-vous que c'est faux pour vous de n'être pas le chef de votre maison? Votre femme a une petite saute d'humeur, elle vous met à la porte et vous dites « Oui, mon amour, je reviendrai tout de suite. » Savez-vous, comment pouvez-vous être un gardien de la maison de Dieu quand vous ne pouvez même pas diriger votre propre maison? C'est exactement cela. Savez-vous, sœur, que votre mari n'est pas seulement votre mari, mais qu'il est aussi celui qui domine sur vous? Dieu l'a dit. Parce que le mari ne fut pas séduit, mais bien la femme. Et vous, prédicateurs, vous allez continuer à nommer des femmes pasteurs et prédicateurs dans vos églises, sachant que la parole de Dieu le condamne. Vous continuez à utiliser ce nom de Père, Fils et Saint-Esprit pour baptiser, quand il n'y a rien dans l'Écriture à l'appui de vos thèses. Je veux qu'un archevêque ou quelqu'un d'autre me montre où dans la Bible, quelqu'un a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Je veux que quelqu'un me montre une personne qui était baptisée autrement que dans le nom de Jésus. Ceux de Jean n'étaient pas baptisés, ils le furent croyant qu'il allait venir, mais ils ne savaient pas qui il était. Mais aussitôt qu'ils reconnurent cela, ils durent venir pour être rebaptisés au nom de Jésus-Christ. Je veux que quelqu'un, j'ai demandé aux assemblées de Dieu, aux autres prédicateurs, aux baptistes, aux presbytériens, à tous les autres, ils ne veulent pas parler là-dessus. Parce que je veux voir dans l'Écriture, alors je suis un fanatique, hein? Alors je suis fou, j'ai perdu la tête, je suis hors de moi. Juste parce que j'essaye de vous dire la vérité. Maintenant, c'est honnête, frère. Si un homme s'est livré complètement à Dieu, il s'est livré corps et âme. Vous êtes mis à part. Vous êtes une créature différente. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Beaucoup sont appelés. Vous recevez un appel dans votre cœur. Oh oui, je crois que Dieu m'aime. Je crois qu'il le fait. Mes frères, vous serez tout autant perdus que les autres, parce qu'ils viendront là-bas ce jour-là, et ils diront même, « Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait tout le reste en ton nom. J'ai eu des services de guérison, j'ai prêché l'évangile, j'ai chassé des démons. » Et Jésus dira, « Partez d'ici, je ne vous connais même pas, hypocrite. C'est celui qui fait la volonté de mon Père. » Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas le voir? Je sais que cela gratte. Ce n'est pas mon intention que cela blesse. Ce n'est pas mon intention, mes frères. Il me semble que nous sommes à la fin des temps. Et Dieu est en train d'adopter, de placer l'Église dans sa position, dans le corps de Christ. Il n'y en aura pas beaucoup qui seront placés, laissez-moi vous le dire. Vous dites, oh, il y en aura un si grand nombre. Mais n'oubliez pas que pendant 6000 ans, il en a fait sortir. Souvenez-vous qu'il y aura la résurrection et que nous serons enlevés avec eux, juste quelques-uns. Voyez-vous? Allez rapidement à la recherche de votre salut. Regardez-vous sur toutes les coutures et voyez ce que vous avez fait de faux. Voyez-vous? Regardez quelle est votre situation. Je sais que c'est dur, mais frères, c'est la vérité. C'est la vérité de Dieu, l'adoption. Nous devrions être si enflammés pour Dieu. Nous devrions y aller jour et nuit. Rien ne devrait nous arrêter. Et nous devrions être si doux, si aimables, si gentils et si semblables à Christ dans nos vies. Cela nécessite que chaque jour de la vie, Jésus a dit, considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Salomon portait de somptueux vêtements de soie brodée, mais ce n'était pas ce dont il parlait. Pour qu'un lys puisse croître, il doit peiner jour et nuit. Pourquoi voulez-vous monter ici par le petit bout de la corde? Si le juste se sauve avec peine, que deviendront le pécheur? C'est l'incroyant et l'impie. L'homme qui entend la parole et qui refuse d'y marcher. Maintenant, qu'allons-nous faire? Maintenant, ceci est notre Église. Nous avons peut-être 4 ou 5 étrangers parmi nous, mais ceci est mon Église. Je vous enseigne. Ceci va sur bande. Je veux que les gens qui écoutent les bandes se souviennent que ceci est pour mon Église. Dehors, parmi les gens là-bas, j'essaie d'être suffisamment gentleman pour leur dire de rester là où nous pouvons les dorloter avec leur petite idée de les maigres, mais lorsque c'est le moment de vraiment déclarer la vérité, déclarons-la. L'adoption, placée. Où en sont-ils? Montrez-moi où ils en sont. Dieu appelle ses enfants à part par une manifestation. Ils n'ont pas un mot à dire à ce sujet. Vous voyez que quelque chose est en train d'arriver. Il place son fils, le mettant dans l'ordre, exactement de la même manière. Il a autant d'autorité, ses paroles sont aussi valables que celles d'un archange, même supérieures. Le fils était adopté, mis sur une place élevée, alors il changeait de vêtements et changeait d'aspect. Le père faisait une cérémonie et disait, « Celui-ci est mon fils, dès maintenant il est gouverneur, il dirige, il règne sur tout mon héritage. » Tout ce que je possède lui appartient. C'est vrai. Alors nous pourrions retourner à ce même Eli El Elohim. Voyez-vous? Là où il existe par lui-même. Et ensuite revenir au travers de Jéhovah qui créa toutes choses. Il a donné à l'homme la domination sur la terre. Qu'attendons-nous? La manifestation. La terre soupire. Attaquons-nous à cela et lisons-le. Bien. Prédestinés à être ses enfants d'adoption selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. Qu'est-ce que sa grâce? Avant, lorsqu'il n'était pas un père, sa grâce est amour. Il devint un enfant afin que nous puissions être prédestinés à être des enfants d'adoption, à la louange de sa grâce. Voyez-vous, il nous a accordé en la personne, en son bien-aimé, qui est Christ. Il nous a rendus agréables, comment? Par lui. Comment entrons-nous en lui? Dans un seul esprit, nous sommes tous baptisés en lui. Écoutez, en lui, nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés. C-H-E-S. Comment pouvez-vous prêcher la prédestination montrant que Dieu a prédéterminé et placé à moins qu'il y ait quelque part une victime expiatoire? Pourquoi cela? Chaque jour vous faites une faute. Chaque jour vous agissez mal. Mais si vous êtes un homme ou une femme né de nouveau, aussitôt que vous faites une faute, Dieu sait que vous la regrettez. Vous vous tiendriez en présence du président Roosevelt ou de n'importe qui d'autre, vous diriez « j'ai tort ». « Oh Dieu, pardonne-moi de cette chose. » Pourquoi? Il y a une expiation de sang. Il sait que les P-E-C-H-E-S, péchés, un pécheur ne commet pas de péché, mais l'Église commet des péchés. Agit mal, a de mauvaises pensées, un mauvais comportement. Ses sentiments sont mélangés, elles se dandinent. comme un petit enfant qui marche, qui essaie d'apprendre à marcher, ne sait pas encore comment bien marcher, parce qu'il est un petit garçon, mais il y a une main qui se tend vers nous, nous prend et nous affermit et qui dit, fais ce pas de cette manière, fils. Il ne nous ramasse pas et ne nous fesse pas parce que nous avons fait une faute. Il ne nous bat pas à mort parce que nous essayons de marcher. Il nous aime comme nous aimons nos enfants. Un véritable papa ne fouetterait pas son enfant quand il essaie de marcher et qu'il tombe par terre. Mais il étendrait tout de suite sa forte main, le ramasserait, prendrait ses deux mains pour le tenir debout en disant, voici comment il faut faire, fils. Marche comme ceci. C'est ainsi que fait Dieu avec son Église. Il étend sa main, le prend dans ses bras, le soulève et dit, marche comme ceci, fils. Ne le dis pas ainsi, parle comme ceci. Peu m'importe ce que dit l'Église, ce que dit celui-ci ou celui-là, tu le dis comme ceci. Comme ceci, c'est cela. Ma parole le déclare, reste avec elle, marche avec elle. Reste tout à fait avec elle. Peu m'importe ce que dit quelqu'un d'autre, reste avec elle. Marche comme ceci, c'est ainsi que tu fais ton pas. Nos péchés, sans une expiation d'amour pour nos péchés, nous n'aurions jamais eu une chance. Combien nous pourrions nous arrêter sur ces paroles? Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répondu abondamment. Qu'est-ce que répondre abondamment? Oh là là, que Dieu a répondu abondamment. Que Dieu a répondu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. L'intelligence, toute espèce de sagesse, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse, mais pas celle du monde. La sagesse du monde est une folie devant Dieu, et la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. C'est comme le jour et la nuit, ils ne peuvent pas s'accorder l'un avec l'autre, mais quand le soleil commence à se lever et que le jour vient, la nuit se dissipe d'un endroit à un autre. Et quand la lumière de l'Évangile commence à entrer, toutes les choses du monde commencent à disparaître. Et que fait-il? Il répand abondamment la lumière du soleil sur ses enfants, qui marchent dans l'Esprit, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il répand abondamment sa grâce avec toutes sortes d'intelligence, de sagesse, de compréhension et de perspicacité pour nous enseigner comment marcher. Si vous voyez que c'est faux, alors faites attention comment vous... Si c'est faux, prenez garde à la manière dont vous l'approchez. La prudence. Soyez vraiment sûr que vous savez comment l'approcher. Prudent comme les serpents, simple comme les colombes. C'est ce que Jésus a dit. Oh, ce sont des pépites, frères. Nous pourrions rester là-dessus jour après jour. Ne sont-elles pas merveilleuses? L'intelligence, la sagesse, qu'il a répandu abondamment sur nous, qu'il a déversé. Il n'y a pas été avec la cuillère, mais il a pris une grosse pelle et il se mit à les déverser sur nous. Il les a répandus en abondance sur nous. La sagesse avec l'intelligence de sa grâce. Oh, grâce exceptionnelle, combien le sang est doux. Donc, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Amen. À qui parle-t-il? Aux dénominations? S'il vous plaît, mes frères, ne pensez pas que je cherche à abaisser votre dénomination. Ce n'est pas le cas. J'essaie de vous dire que c'était une chose fausse dès le commencement. Jésus a dit, allez prêcher l'Évangile. Nous sommes partis et nous avons créé des dénominations. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas cela. Nous marchons d'après la sagesse des hommes. Si Calvin pouvait ressusciter que je me suis tenu il n'y a pas longtemps près de la tombe d'un grand homme, d'un grand réformateur, et j'ai pensé au grand homme que c'était. Il en était un. Eh bien, c'est John Wesley. Et j'ai pensé que si John Wesley pouvait ressusciter de sa tombe aujourd'hui et pour la condition de son Église, il aurait honte de son nom. John Wesley était un homme pieux. Un bout de feu, comme il l'appelait. John Wesley était un saint homme qui croyait en Dieu et qui marchait pas à pas après lui. Mais après que John fut mort, ils dirent, nous ferons une église en l'honneur de John. Ainsi, nous aurons une église et nous l'appellerons l'église méthodiste à cause de sa méthode de sanctification, étant la seconde œuvre de la grâce. Elles firent une église, et aujourd'hui, ces églises nient tout ce dont John Wesley avait soutenu. John Wesley prêcha la guérison divine. John croyait dans le baptême de l'Esprit. John Wesley croyait dans toute la restauration des dons. John Wesley, Martin Luther, beaucoup de ces grands hommes parlèrent en langue et interprétèrent. Et aujourd'hui, si vous parliez en langue dans une église méthodiste ou dans une église luthérienne, ils vous jetteraient la porte. Qu'y a-t-il? Juste dans le temps où nous devrions placer les enfants, les fils, qu'y a-t-il? Ils ont adopté quelque chose d'autre parce qu'ils ne connaissent pas le mystère de Dieu. Elles ne le connaîtront jamais au travers d'un séminaire. Laissez-moi juste vous lire quelque chose. Est-ce en ordre? Très bien. Disons donc, j'ai quelque chose d'inscrit ici. Regardons de quelle manière Paul. Maintenant, voici celui qui a enseigné ce message. Allons une minute dans Actes 9, 5. Faites-moi savoir que je suis. Cependant, Saul respira encore la menace. Oh, ce petit juif colérique et mesquin au nez crochu, et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des, je vais les chercher. Si je peux les trouver, mon pauvre ami, qu'est-ce que je leur ferai? Voyez-vous, si j'arrive à les trouver. Mais il était prédestiné. Comment savez-vous que ce vieux trafiquant d'alcool là-bas n'est pas prédestiné à la vie? Comment savez-vous que cette racoleuse à laquelle vous ne voulez même pas parler? Comment savez-vous qu'en lui donnant une poignée de main et en l'invitant à l'église, vous ne ferez pas d'elle une sainte là-bas dans la gloire? Comment savez-vous qu'elle ne l'est pas? C'est ce que nous savons pas. Mais c'est notre devoir. C'est pareil à un pêcheur qui jeta son filet dans la mer et qui y trouva, en le retirant, des grenouilles, des poissons, des lézards, des araignées d'eau et tout le reste. Mais une partie était du poisson. Il ne savait pas, il a simplement jeté le filet, c'est ce que nous faisons. Observez Paul. Il désirait des lettres pour la synagogue de Damas, afin que s'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Il était vraiment dur. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, un prêtre apparut, le docteur F.F. Jones, qui lui dit, « Tu as maintenant besoin d'une expérience de séminaire, fils, et je crois que Dieu pourrait t'utiliser. Ne serait-ce pas horrible s'il fallait lire ce passage comme cela? » Ça a autant de sens que, je ne dis pas cela pour plaisanter, mais cela a autant de sens que ce que nous entendons aujourd'hui. Vous savez que votre mère était bonne, je crois que vous feriez un bon prédicateur. Observez ce qui arriva. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Voilà le surnaturel qui commence. Une lumière venant du ciel. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Et les hommes partirent avec lui, et plus tard ils trouvèrent un homme, Ananias, qui avait une vision, encore du surnaturel. Et le vieux Saul, cet homme mesquin, Ananias eut une vision, il regarda dans sa maison, c'était un prophète. Il était dans sa maison qui priait, et il eut une vision. Le Seigneur lui parla, lui dit, « Il y a un homme qui vient sur la route là-bas. Il est aussi aveugle qu'une chauve-souris, et son nom est Saul, Saul de Tarse. » Il répondit, « J'ai entendu bien des choses à son sujet. Ne m'envoie pas, je suis un petit homme. Ne m'envoie pas vers lui. » Il dit, « Mais voici que sur la route, je lui ai donné une vision. Je lui suis apparu dans la colonne de feu. Je l'ai rendu aussi aveugle que possible. Et j'ai dû l'aveugler et le déchirer avant que je puisse faire quelque chose de lui. Voyez-vous, j'ai dû enlever toute sa théologie. Tu sais qu'il était un homme important dans une de ces églises là-bas. Il avait toutes sortes de diplômes, il n'avait plus besoin de se perfectionner. Mais, dit-il, ce que je dus faire, ce fut d'enlever de lui tout cela. C'était la chose à faire. Ce n'est pas de mettre plus en lui, mais de retirer de lui. Je pense que c'est le cas avec beaucoup de nos ecclésiastiques aujourd'hui. Retirez d'eux, afin que Dieu puisse y mettre son Saint-Esprit. Enlevez, il dit-il. Il répondit, Seigneur, cet homme est terrible. Il dit, mais voici qu'il prie. Maintenant, va dans une certaine rue et tu arriveras à une fontaine. Tu laisseras cette fontaine à ta gauche et tu descendras. Tu verras une maison blanche. Monte-y et frappe à la porte. Elle la regarde simplement qui est couchée là dans le hall. C'est aussi loin qu'ils peuvent l'amener. Impose-lui les mains, puis emmène-le à la rivière de Damas et là baptise-le au nom de Jésus. Je vais te dire ce que je veux faire de lui. Il devra souffrir beaucoup de choses, beaucoup à cause de mon nom, car je l'ai choisi comme messager pour les nations. Amen. Bien maintenant, attends une minute, Seigneur. Quelle école devrais-je aviser? Je vais vous dire ce que nous allons faire. Lisons dans Galates et regardons ce qui en est. C'est juste le chapitre précédent. Cherchons Galates 1 et commençons au verset 10. Regardons dans quelle école alla Paul, quel séminaire et qui lui imposa les mains et tout ce qui arriva. Galates, chapitre 1er. Pour gagner du temps, commençons avec sa conversion. Le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Oh là là. Puis juste dire un petit quelque chose. Galates 1. Prenez le verset 8. Combien savent que Paul était celui qui fit que ces gens soient baptisés de nouveau au nom de Jésus? Acte 19. C'est sûr qu'il l'a fait. Prenons ici juste un peu plus haut. Le verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Voyez-vous, où as-tu reçu cet évangile, Paul? Le verset 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit un archange, un évêque, un surveillant général, qu'il soit docteur un tel, qui que ce soit, s'il ne prêche pas le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit, s'il ne prêche pas la restauration des dons, la venue de Christ, toutes ces choses, qu'il soit anathème. S'il essaye de prendre n'importe quelle partie de cette parole ici et qu'il dise que c'est pour une autre époque et qu'il l'interprète à sa façon comme une chose qu'il aurait apprise dans un séminaire, qu'il soit anathème. Lisons plus loin. Voyons comment Paul le reçut. Voyez-vous tout ce que j'essaie de vous dire ce matin. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Comment puis-je attendre quoi que ce soit? Comment un homme qui aime Dieu, et spécialement un prédicateur, peut-il attendre autre chose que d'être haï par les hommes? Les hommes vous haïront. Jésus a dit, s'il m'appelle le maître de la maison, je suis le maître, le plus grand de vous tous. Je suis celui qui peut accomplir plus de miracles et faire plus avec le Saint-Esprit que vous tous, car en moi se trouve la plénitude. Ainsi, s'il m'appelle Belzébul, à combien plus forte raison vous appelleront-ils ainsi? Mais dit-il, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera votre Père qui demeure en vous. Ce sera lui qui parlera à cette heure. Restez simplement avec la parole. Et quand il eut terminé d'écrire le livre, il dit, quiconque retranchera un mot de ce livre ou y ajoutera un mot sera effacé du livre de vie. Oh Dieu, aide-nous à rester exactement avec elle. Maintenant le verset suivant. Laissez-moi lire. Maintenant lisons rapidement. Je vous déclare, cela vous amène au jugement. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui est annoncé par moi n'est pas de l'homme. Maintenant, je ne suis ni méthodiste, ni baptiste, ni presbytérien ou ni pentecôtiste. Il n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Je ne l'ai jamais reçu d'un homme. Ni d'un séminaire, d'un docteur en théologie, ni d'une école d'enseignement. Je ne l'ai jamais reçu de cette manière. Je ne l'ai jamais enseigné de cette manière. Je ne l'ai jamais trouvé de cette manière. Cela ne m'est jamais vu de cette manière. Alors, Paul, comment cela est-il venu? On te l'a enseigné? Non, mais par une révélation de Jésus-Christ. Quand Christ se révéla à moi comme étant le Fils de Dieu, quand cette colonne de feu tomba sur moi là-bas, ce jour-là, je dis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Il répondit, « Je suis Jésus. » Maintenant, regardez, je vais vous montrer ce qui lui arriva. Très bien, maintenant, si un homme a une expérience, il veut lui donner 10 ans pour apprendre le grec, et encore 10 ans pour apprendre quelque chose d'autre. D'ici là, il est parti. Regardez, « Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme. J'étais un grand docteur. J'avais cela. Il fut enseigné par Gamaliel, un éminent professeur du pays. Combien savent que Gamaliel était un des plus grands professeurs? Oui, monsieur. Mon judaïsme, je l'avais bien appris. Je savais comment réciter le credo des apôtres et toutes ces choses. Vous voyez, je savais comment réciter toutes les prières du matin et comment bénir les gens. Voyez-vous? Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Comment j'ai essayé d'arrêter cette bande d'exaltés. Voyez-vous? Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que... J'étais un grand homme. J'étais vraiment avancé. Je leur ai montré que je pouvais les écraser en tuant Étienne. Et j'ai vu encore beaucoup d'autres choses. Voyez-vous? Comment il avait persécuté à outrance. J'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Maintenant, souvenez-vous, pas de la parole de Dieu, mais des traditions de ses pères. Les traditions de l'Église, en d'autres termes. J'étais un méthodiste jusqu'à la moelle. J'étais un baptiste jusqu'à la moelle. J'étais un pentecôtiste jusqu'à la moelle. Oh, c'est bien ce que vous êtes. Mais je veux être Dieu jusqu'à la moelle. C'est cela. Bon. Pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à Dieu. Oh, Paul. Voilà, tu y viens. Qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'amena dans ce monde, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. Comment cela? Le Saint-Esprit en moi, il plut à Dieu de me prendre, lui qui m'avait séparé de le sein de ma mère, et qui m'a donné le Fils, ce qui est le Saint-Esprit dans la forme de l'Esprit, en moi pour se révéler en moi. Oh là là! Je crois que je veux me mettre un peu à crier. Regardez! Laissez-moi vous dire, frère, quand il plut à Dieu, oh, alléluia, quand il plut à Dieu, un père buveur, une mère, que Dieu te bénisse, maman, je ne dis rien contre toi, mais une mère qui ne savait pas plus au sujet de Dieu qu'un lapin au sujet de raquettes à neige, et un père qui se couchait ivre dans les rues, et avec même pas des souliers pour aller à l'école, et de longs cheveux qui tombaient en bas de mon cou, tout le monde me haïssait parce que j'étais du Kentucky, ici en Indiana. Oh, combien c'était une horrible vision. Mais il plut à Dieu.
Amen.
Amen. Il plut à Dieu qui me mit à part dès le sein de ma mère, afin qu'il puisse me révéler son Fils, en faisant de moi un ministre de la parole, qui resterait exactement avec elle, qui aurait des visions, des signes, des miracles, et oh, oh là là. Voyez-vous de quoi il parlait? Il plut à Dieu de faire cela.
Amen.
Comment? Écoutez attentivement. Maintenant le verset 16, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais pas l'Église. Je ne suis jamais allé vers un évêque pour lui demander ce que je devais faire. Je ne suis jamais allé vers la chair et le sang, à des organisations ou quelque chose d'autre. Je n'ai jamais rien eu à faire avec eux. Je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers tous les grands et saints sacrificateurs et les saints pères, vers tout ceci. Et je n'ai pas dit, maintenant vous savez, j'ai une vision. Que dois-je faire à ce sujet? J'ai vu le bien-aimé Seigneur Jésus dans une vision. Il aurait dit, sors d'ici, espèce exaltée. Que t'est-il arrivé? Non, j'avais déjà tous ces diplômes. Et Paul dit ici, je peux vous le montrer dans les Écritures, qu'il eut oublié tout ce qu'il avait appris, et le considérer comme sans valeur, afin de pouvoir connaître Christ.
Amen.
Oh! Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Et comme nous continuons à lire, nous voyons que lui et l'apôtre Pierre ne s'étaient jamais vus. Ils ne se connaissaient pas, ne s'étaient jamais vus, mais quand ils se rencontrèrent, ils prêchaient le même évangile.
Amen.
Dieu a une école, oui. Pierre se trouvait là le jour de la Pentecôte. Elle dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Philippe dit, oh, combien c'est glorieux. Je dois aussi faire quelque chose. J'ai reçu un appel pour aller à Samarie. Il alla là-bas et se mit à témoigner dans les rues. Tout de suite, une personne malade vint. Il lui imposa les mains, elle commença à sauter, à bondir. Et il dit, gloire à Dieu, nous y sommes. Et commença à avoir une grande réunion, il dit, vous avez tous besoin du Saint-Esprit. Ce que vous devez faire, c'est d'être baptisés au nom de Jésus. Il les emmena là-bas, les baptisèrent tous au nom de Jésus. Puis il dit, viens ici, Père, Pierre, et impose-leur maintenant les mains. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Pierre dans la maison de Corneille, même résultat. Paul ne l'avait même jamais vu, ou n'avait rien entendu à son sujet, mais quand il traversa les côtes supérieures d'Éphèse, il découvrit certains disciples. Il trouva un prédicateur baptiste, c'était Apollos, un juriste converti, intelligent, brillant, qui au moyen de l'Ancien Testament prouvait que Jésus était le Fils de Dieu. Oui, monsieur, c'était un homme intelligent, et il poussait des cris, il était joyeux, la Bible dit. Lisez les chapitres 18 et 19 des Actes, et voyez si ce n'est pas juste. Il était joyeux, il dansait dans l'esprit. Elle courait tous en rond, vous savez. Paul dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Et vous, frère Baptiste, qui essayez d'enfoncer ça dans le cou des gens et qui dites que le texte grec original dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Je vous défie de m'apporter le grec. J'ai le texte grec original en ma possession. J'ai aussi l'araméen et l'hébreu. Chacun d'eux dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Par la foi, vous êtes sauvés. C'est votre foi en Dieu. Le sang vous garde pur du péché, parce qu'il y a eu expiation. Le sang ne vous sauve pas, le sang vous garde propre. Comment êtes-vous sauvés? Par la foi, vous êtes sauvés. Et cela par la préscience de Dieu, lequel vous appelle. Vous êtes sauvés. Et le sang fait une expiation constamment pour vous garder pur. Et alors, dans un seul esprit, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, dans la communion des croyants et dans la communion du Saint-Esprit, pour être conduits par l'Esprit, accomplissant des signes et des miracles. Attendez, cela vient, nous attendons quelque chose. Encore quelques minutes et nous y arriverons. Du moins, je l'espère. Je vous ai dit de m'appeler à cette heure-ci, n'est-ce pas? Il s'est trouvé que je viens de la regarder. Encore juste un mot ou deux. Juste un petit peu plus. Combien de temps dure ce salut? Combien de temps? Quel genre de salut est-ce? D'une église à une autre? Lisons dans Hébreux 9:11 une minute, juste pour regarder et voir combien de temps. Juste quelques minutes. Allez dans le livre des Hébreux. Regardons combien de temps dure ce salut. Et voyons quel genre de salut c'est. Lisons maintenant Hébreux 9:11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire, maintenant c'est là le même enseignant, Paul, voyez-vous, qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes, combien de fois? Une fois pour toutes, dans le lieu très saint. Amen. Non avec le sang des boucs, et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu le salut pour une semaine, le salut jusqu'au prochain réveil, quelle sorte? Une rédemption éternelle. Amen. Que veut dire le mot éternel? En Christ, après que j'ai cru, nul ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a trois classes de gens, incroyants, soi-disant croyants et croyants. Mais ceux qui, une fois, ont cru à la vie éternelle, sont entrés dans les parvis. Prenez l'ancien tabernacle. Quelle était la première chose que vous faisiez? Vous entriez dans les parvis, les nations. Ensuite, il y avait l'autel des reins, la cuve d'or où le sacrifice était lavé. Ensuite, venait la mise à mort du sacrifice et l'aspersion du sang sur l'autel. Puis, une fois par année, Aaron était oint. Avec quoi? Avec le parfum de la rose de Saron. Avec l'huile précieuse qui contenait du parfum. Il la versait sur sa tête, elle coulait jusqu'au bord de ses vêtements. Observez de quelle manière cet homme devait aller derrière ce voile, une fois par année, en portant devant lui le sang pour le propitiatoire. Il prit son bâton avec lui une certaine année et l'oublia. Quand ils retournèrent le chercher, il avait des bourgeons et il avait fleuri. Un vieux bâton sur lequel il s'était peut-être appuyé pendant 40 ans dans le désert se trouva là dans le lieu saint. Observez. Quand ils prirent le sang de l'alliance, le sang, il était oint et il portait des vêtements auxquels étaient fixées de petites clochettes, une grenade et une clochette. Et cet homme devait marcher de telle manière que chaque fois qu'il bougeait ses jambes, qu'il bougeait comme ceci et faisait un pas, cela tintait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. » Oh là là! De quoi suis-je en train de parler? Écoutez cela, Branham Tabernacle. Vous avez eu votre chance. Quand un homme a été oint du Saint-Esprit pour être adopté dans la famille de Dieu, pour être placé par le Père, et que celui-ci lui dit de faire un certain travail comme but de sa vie, ce à quoi Dieu l'a appelé, sa marche doit être Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint. Oh, tu dois te détourner de ceci. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Oh, tu dois croire tout ce que dit l'Ancien, mais Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Que sa parole vienne en premier, qu'elle soit tout ce qu'il y a, qu'elle pénètre et s'établisse dans votre cœur. Votre marche doit être dans la parole. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Oh, si tu viens ici, je te dirai ce que nous ferons. Nous allons nous organiser, nous allons te placer dans notre organisation et tu seras un grand homme. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Allons ainsi de l'avant. Ce qu'on peut bien nous dire, ça n'a pas d'importance. Retirez ces bandes, faites ceci, faites cela et encore cela. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Vous avez les yeux dirigés vers le calvaire et rien ne pourra vous arrêter. La marche de votre vie, vous marchez sur le chemin du roi. Oint avec la précieuse huile, entrant dans le lieu très saint. Chut. Amen. Très bien. Paul dit qu'il n'avait pas reçu ceci d'un homme. Maintenant, que dit-il aux Galates, notre leçon? Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Qu'est-ce que sa volonté? Faire connaître le mystère de sa volonté. Vous qui inscrivez le verset 9. Maintenant, je vais vraiment me dépêcher et terminer avec ceci, parce qu'il se fait tard. Oh, chaque mot est une telle pépite. Oh, chaque mot est une pépite. Vous pouvez l'apprendre et vous mettre à la polir. Vous pouvez prendre un de ces mots là-dedans, vous l'amenez dans la Genèse et vous le polissez. Vous l'amenez dans l'Exode et vous le polissez de nouveau. Vous le prenez dans le Lévitique et vous le polissez de nouveau. Et d'ici le temps que vous arriviez à l'Apocalypse, c'est entièrement Jésus. Amen. Vous pouvez le polir autant que vous le voulez. Ce sera Jésus quand vous arriverez à l'Apocalypse. Car il a dit, je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, c'est A et Z dans l'alphabet grec. Je suis de A à Z, je suis tout en tous. C'est vrai, je suis le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Oh là là, chaque pépite que vous ramassez ici et que vous commencez à polir, elle finit par être Jésus. Encore quelques minutes, puis nous arrêterons. Alors, qu'attendons-nous? Pourquoi nous nous rassemblons? Quel en est le but? Après quoi le monde soupire-t-il? Pourquoi la bombe atomique se trouve-t-elle là-bas? À quoi servent les molécules et les atomes et... Oh, de quoi tout cela traite-t-il? Allons une minute dans Romains 8. Qu'attendons-nous? Ces choses, qu'attendent-elles? Quelle heure est-il? Romains chapitre 8. Et commençons à lire vers le... Oh, je dirais... Oh... Commençons vers le verset 19. Et lisons depuis là, pour le rendre très doux. C'est vrai, je sais où vous voulez en venir. Très bien. Romains, chapitre 8. Je crois que je suis au bon endroit maintenant. Oui, monsieur, le chapitre 8 Et commençons vers le verset 18. Commençons verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est vrai. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Oh, je me demande si je peux tenir, ou si je peux encore tenir. Ne tenez rien. Ce n'est pas si je tiens, mais si il tient. Je suis en lui maintenant. Voyez-vous? Vous dites, si je suis en lui maintenant, vous les presbytériens avez dit, oh, nous l'avons toujours cru. Mettre votre vie prouve que vous n'y êtes pas, à moins que vous marchiez et ayez la même vie que lui et que vous croyez le même évangile qu'il a prêché.
Amen.
Vous dites, les baptistes disent, assurément je crois dans la sécurité éternelle. Et vous sortez en fumant le cigare et vous allez danser, les femmes coupent leurs cheveux, fardent leur visage et agissent comme je ne sais quoi. Vos fruits prouvent que vous ne le croyez pas. Maintenant je dirais, croyez-vous dans la guérison divine? Oh, Dr. Jones a dit que c'était dans le passé. Eh bien, vous, hypocrite, qu'avez-vous? Vous, pauvre enfant plein d'illusions, vous êtes si loin de l'Évangile que c'est malheureux. Vous avez été aiguillé sur la route boueuse d'une décharge qui brûle. Ne voyez-vous pas ici qu'il a dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair à cette heure même est un mauvais esprit? La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui éternellement. Ce qu'il a dit alors est valable maintenant et pour toujours. Écoutez. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit après que vous soyez adoptés. Très bien. Après que vous soyez adoptés, vous êtes placés. Comprenez bien. Après que la cérémonie ait eu lieu et que vous avez été placés correctement dans le corps. Vous êtes des fils, assurément, ou une fille, que vous naissez de nouveau. C'est votre naissance, mais maintenant vous êtes placés. Nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, mais nous avons reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père », ce qui veut dire « Mon Dieu ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment cela se fait-il? Vous dites « Gloire à Dieu, Alléluia, cela ne me dérange pas, je suis un enfant de Dieu ». Et vous sortez, vous allez faire les choses que vous faites. L'Esprit de Dieu fera les œuvres de Dieu. Jésus a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Voyez-vous? Si ce sceptre apparaît et qu'il produise du raisin, et que le suivant produise des citrouilles, il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez-vous? C'est une église greffée. C'est un sceptre greffé. C'est une personne greffée. Si une personne appartient à une dénomination, et qu'elle s'appelle une chrétienne, et qu'elle n'est pas le Saint-Esprit, la puissance de Dieu et toutes ces choses, maintenant, si vous sortez et que vous agissiez comme c'est simplement parce que vous avez parlé en langue, j'ai vu des démons parler en langue. Oui, monsieur. Je les ai vus danser dans l'esprit, crier, écumer et tout le reste. J'ai vu cela. Je ne parle pas de cela. Je parle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances, écoutez ceci, oh, si ce n'est pas bon. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
Amen.
Qu'espère toute chose? Qu'attend la création tout entière? La révélation des fils de Dieu. Elle attend que l'Église vienne dans sa position. Qui était le fils de Dieu quand Adam? Où était son domaine? La terre. Il avait un domaine sur la terre, n'est-ce pas? Il n'était plus Eli, El, Elohim, il était Jéhovah. Voyez-vous? C'est-à-dire que je suis Dieu et que j'en ai créé de plus petits que moi. Et je leur donne une domination et dans leur domaine, la domination sous eux, c'est la terre. L'homme était appelé à dominer sur la terre et la création entière attend que les fils de Dieu soient manifestés. Nous attendons la venue de ce beau jour du millénium, quand notre Seigneur béni viendra et qu'il enlèvera son épouse qui l'attend. Oh, la terre soupire et implore ce jour de doux soulagement, quand notre Sauveur reviendra sur la terre. N'est-ce pas cela? Nous attendons. Dieu essaie de placer son Église dans sa position afin de se manifester et en prendre un au travers duquel il peut agir, comme ceci est dire, « Mon esprit s'écoule librement là, je peux agir. » Il en prend un autre ici et le place, je peux le placer, l'adoption, placer, manifester. Je vais l'emmener ici, faire une cérémonie, le visiter par un ange, lui dire quelque chose. Maintenant, s'il a dit la vérité, s'il ne fait qu'inventer quelque chose, cela ne marchera pas. Non, non, cela ne marchera pas. Nous en avons eu beaucoup, mais je veux parler de la manifestation des fils de Dieu. Quand Dieu se manifeste, elle envoie. Ainsi il part et ce qu'il dit est la vérité. Ce qu'il fait est la vérité. Ce qu'il fait, il manifeste Christ. Comment pouvez-vous le juger? Par la manière dont il reste avec la parole. Exactement avec la parole. Voyez-vous, c'est ainsi que vous connaissez tout homme. C'est par la manière dont il reste avec la parole. S'il ne parle pas selon la parole, il n'y a pas de vie en eux, dit la Bible. Voyez-vous, laissez-les. Maintenant, lisons. Ensuite, nous devrons nous arrêter parce que le temps passe. Très bien, le verset 10, ou plutôt le verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté pour nous adopter selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Il avait formé ce dessein lui-même avant la fondation du monde. Combien comprennent ceci? Voyez-vous, pour le mettre à exécution lorsqu'il est temps. Oh là là, nous y arrivons de nouveau. Oh, passons là-dessus. Lorsque les temps seraient accomplis, croyez-vous aux dispensations? La Bible le dit. Dans la dispensation ou quand les temps seraient accomplis, qu'est-ce que la plénitude des temps? Il y a eu une dispensation de... il y a eu la dispensation de la loi mosaïque. Il y a eu la dispensation de Jean-Baptiste. Il y a eu la dispensation de Christ. Il y a eu la dispensation de l'organisation des églises. Il y a eu la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, il y a la dispensation de l'adoption, ce que le monde attend et pour lequel il soupire. Et quand les temps seront accomplis, que la dispensation de la plénitude des temps, quand a lieu cette plénitude des temps, quand les morts ressuscitent, quand les maladies cessent, quand la terre entière cesse de soupirer, la plénitude de la dispensation du temps. Observez ceci. Lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. N'êtes-vous pas content? Comment va-t-il le faire? Il va réunir toutes choses en qui? Comment entrez-vous en Christ? Dans un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps, et ce corps est le corps de qui? Déjà jugé. Il a pris notre jugement, et ce que nous sommes, lorsque je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et chaque fois qu'il regarde le corps, il se trouve là sanglant. Je suis par le Saint-Esprit. Il passe par-dessus, oh là là, lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux. Maintenant, si vous voulez parler au sujet d'un nom, nous voulons en parler dans quelques instants. Toute la famille dans le ciel est appelée comment? Toute la famille sur la terre est appelée comment? Il y a des sœurs vraiment bien ici, de véritables dames. Il y a une Madame Branham, Madame William Branham, c'est ma femme. Elle rentre à la maison avec moi ce soir. Voyez-vous, vous les autres, rentrez avec votre mari. Il y a une grande église vivante du Dieu vivant. Elle porte son nom. Elle est remplie de son esprit. C'est vrai. Je ne dis pas, je ne condamne pas les bonnes œuvres. Je ne condamne pas leurs hôpitaux, les bonnes choses qu'ils font. Je pense que c'est merveilleux. Et une bénédiction de Dieu à la pauvre humanité souffrante. Je ne condamne pas toutes ces autres choses qu'ils font. C'est bien, c'est juste. Elles ont grandes organisations avec des millions de dollars. Je préfère assurément voir cela que des bistrots vendant de l'alcool en contrebande au coin de la rue. Je les honore certainement comme les prédicateurs qui se tiennent à leur chair. Mais quand il s'agit du rassemblement, à la fin de la dispensation, il faudra attendre la manifestation des fils de Dieu afin qu'ils puissent tout réunir, tout ce qui a été amené en Christ. Qui est Christ? Comment entrons-nous en lui? 1 Corinthiens 12, dans un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps, lequel est le corps de Christ, et nous avons eu part à tous les dons et à toutes les bonnes choses qu'il possède. Est-ce vrai? Et la terre entière soupire, implore et attend la manifestation qu'il y aura quand Christ et son Église s'uniront. Cette dispensation de la plénitude des temps réunit toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Oh, frère Neville, pardonne-moi de prendre tout ce temps. Ce mot héritier, je sais que c'est comme des enfants. Mais frère, j'espère que je ne suis pas fou, je ne pense pas que je le suis, mais oh là là. Un quoi? Un héritage. Nous avons obtenu un héritage. Quelqu'un doit vous léguer quelque chose. Dieu, avant la fondation du monde, vous a légué quelque chose. Un nom écrit dans le livre, faisant que lorsque l'agneau sera immolé, vous soyez reconnus avec lui. Oh, gardons-le pour ce soir. Lisons un peu plus loin. Oh là là, comment allons-nous arriver au verset 3 ce soir, au chapitre 3? Nous n'avons même pas fini avec les 4 ou 5 premiers versets. Maintenant, nous sommes prêts de terminer. Je dois simplement le lire et le laisser tel quel. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, étant... Quoi? Comment recevons-nous cet héritage? Comment le recevons-nous? Parce que nous avons marché droitement. Comment recevons-nous cet héritage? Parce que nous étions prédestinés. Maintenant, mes frères arméniens, je sais qu'il vous est pénible d'entendre ces paroles. Ce n'est pas mon intention de blesser, mais cela me fait tellement de bien de savoir. Vous l'avez pourtant, frère, mais vous ne le voyez simplement pas. Vous l'avez de la même manière. C'est en ordre, voyez-vous, c'est en ordre. Oh, mais c'est si bon d'y plonger les regards. C'est semblable à ce que frère Neville a dit au sujet de la voûte. Prenez un escabeau et de là, regardez ce que vous avez. Oui, monsieur, c'est ce que le Saint-Esprit de Dieu est notre escabeau pour nous, élever là où nous pouvons le voir. Voyez-vous, un héritage. Oh là là, quel genre d'héritage? Ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Avant qu'il soit un papa, avant qu'il soit Dieu, avant qu'il soit un sauveur, avant qu'il soit un guérisseur, avant tout ceci, il a prédestiné. Il a mis le nom de l'agneau sur le livre. Il a regardé dans le temps par sa prescience. Et il a vu votre nom, elle a aussi mis dans le livre. Qu'est-ce? Et après un certain temps, nous venons dans le monde, nés de parents pécheurs, nous marchons dans le monde, vous savez, tout à coup, c'est pareil à ce petit juif au nez crochu, Paul, vous savez, qui met à exécution. Et soudain, une voix dit, ici, ici, vous dites, oh, Abba, Père. Et nous commençons à venir, voyez-vous, nous ayons prédestiné un héritage en qui? En lui, lequel était prédestiné pour nous, dont nous avons hérité avant la fondation du monde. Voyez-vous? Oh! Suivons la résolution de celui qui opère d'après le conseil de sa volonté. Exactement. Pour être Dieu et Sauveur. En lui, vous aussi, vous avez cru après avoir entendu la parole de la vérité. Et qui est la vérité? Jésus est la vérité de l'Évangile. Maintenant, quel Évangile? Il y a seulement un Évangile. Galates 1 dit que ton ange annoncera un autre Évangile qui soit anathème. Ceci est l'Évangile. L'Évangile de votre salut, pas un autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel vous deviez être sauvés, si ce n'est dans le nom de qui? Oh là là. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Après avoir cru, comment pouvons-nous passer par là-dessus? Frère, laissons-le pour ce soir. Que dites-vous? Oh là là, je ne peux pas aller plus loin. Laissons-le pour ce soir. Je ne peux vraiment pas laisser ce mot scellé. Comment vous y entrez? L'héritage par prédestination. J'ai hérité quelque chose. Quel héritage? Il devait y avoir quelqu'un qui me laisse un héritage. Vous dites, Jésus vous a laissé un héritage. Je vous demande pardon. Jésus ne m'a jamais laissé d'héritage. Jésus ne vous a jamais laissé d'héritage. Il est seulement venu et a payé pour votre héritage. Il vous a amené à votre héritage, mais votre nom fut placé dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Dieu vous a donné votre héritage. Votre héritage était en premier. Jésus est seulement venu. Voici de quelle manière ils essaient d'arranger cela. Dieu dit, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Je veux qu'ils soient sauvés. C'est pourquoi j'enverrai Jésus et peut-être qu'il, quelqu'un regrettera ce que j'ai fait et sera sauvé. Oh, miséricorde, je ne dirigerai pas mon bureau comme cela, même aussi mal que je le fais quelquefois. Je ne le ferai pas comme cela. Qu'en est-il de Dieu? Dieu, par sa préscience, a vu exactement qui serait sauvé et qui ne le serait pas. Il a envoyé Jésus pour sauver ceux qu'il avait déjà choisis. Paul n'a-t-il pas dit, sans verser en arrière, qu'il nous a choisis en lui avant même que le monde existât? C'est notre héritage. Dieu nous a choisis et a envoyé Jésus pour payer le prix. Par quoi? Par l'effusion de son sang, afin qu'aucun péché ne nous soit redemandé. Vous ne faites rien. Celui qui pèche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice. Maintenant, c'est là que vous vous lèverez de nouveau et que vous direz, qu'est-ce que cela, frère Branham? Mais souvenez-vous simplement, voyez-vous, après avoir reçu la connaissance de la vérité, ils n'ont jamais reçu la vérité, ils en ont simplement reçu la connaissance. Voyez-vous, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont une part au Saint-Esprit, qui ont goûté la puissance de la bonne parole, c'est pareil à ces croyants limitrophes. Beaucoup m'ont écrit à ce sujet. Ces croyants limitrophes ont marché jusque-là. Josué et Caleb ont été de l'autre côté. Pourquoi? Maintenant, nous allons appeler cela le Saint-Esprit. Le pays de l'autre côté. Maintenant, ils sont ici. Disons que ceci est le Saint-Esprit, elles sont là-bas. Vous voyez? Voilà où est la promesse. Ils ont dit, envoyez 10 espions, un de chaque tribu, afin que nous tous puissions savoir ce qu'est notre héritage et où nous serons placés là-bas. Où serons-nous placés? Ainsi, je vais envoyer quelques espions. Ils sont tous entrés et ont dit, oh, on nous appellera des exaltés. Ah, nous ne pouvons pas faire cela. Voyez-vous, Josué et Caleb dirent, je vais voir à quoi cela ressemble. Ainsi, ils vinrent ici et regardèrent tout autour. Oh, ils étendirent la main et coupèrent une grosse grappe de raisin, puis ils revinrent dire, oh, il est bon, regardez, goûtez-en. Oh, c'est bon, mais, oh, regarde ce grand, oh, nous ne pouvons pas le faire, il faudra supporter l'opposition de toutes ces grandes dénominations, de toutes ces grandes organisations. Oh, c'est dommage, mais nous ne pouvons pas le faire, non, monsieur. Ensuite, ils commencèrent à dire, oh, retournons à la bonne chair de l'Égypte, nous aurions mieux fait de rester là-bas. Nous ne pouvons pas le faire, cette route est trop resserrée. Nous ne pouvons pas faire ceci, nous ne pouvons pas faire cela. Le vieux Caleb dit, restez tranquilles, vous tous. Puis Josué dit, taisez-vous tous, laissez-moi parler. Amen. Oh, hélas, 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 nous ne pouvons pas le faire. Oh, nous ne pouvons pas. Si je dois quitter mes parties de cœur, frère Branham, dois-je vraiment laisser croître mes cheveux comme une vieille femme? Si je dois enlever mes petits shorts, si je dois arrêter, oh, vous savez, vous savez. Et si je dois renoncer à mes cigares, si je dois faire ceci? Oh, triste exemple que vous êtes. Vous ne pouvez pas le faire. Alors Josué a dit, oh, c'est bon, alléluia, nous pourrons le prendre. Amen. Qu'était-ce? Ils regardèrent aux grandes villes fortifiées, tandis que Josué et Caleb regardaient la promesse de Dieu que Dieu avait faite. Restez avec la parole, alléluia, restez avec la parole. Car Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, car la promesse est pour vous. Quelle est promise? Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Ne laissez pas ceci vous blesser pour terminer, s'il vous plaît, ne le faites pas, voyez-vous. Oh, vous pèlerins de la sainteté et nazaréens, vous avez passé par la sanctification, vous avez marché jusqu'à cet endroit même, d'où vous pouviez voir les raisins. Et ensuite, vous avez fait demi-tour, et vous êtes reparti. Voyez-vous ce qui est arrivé? Voilà la faute. Vous n'êtes jamais entré de l'autre côté, dans le pays. Montrez-moi un Nazaréen, un pèlerin de la sainteté, ou n'importe lequel qui a de grandes campagnes de guérison, où ont lieu des signes et des miracles. Montrez-moi. Vous vous êtes établi en Égypte, vous êtes retourné aux marmites d'Aï, vous vous êtes arrêté à Kadesh Barnéa. C'est vrai, regardez, laissez-moi vous donner un point. Dans Hébreux chapitre 6, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, vous le saviez pourtant. Si ce n'était pas le cas, vous le savez maintenant. Voyez-vous? Qui ont eu part et qui ont goûté le don céleste. Goûté. Voyez-vous? Les gens vont à l'église, s'asseyent là et disent, vous savez, ils pourraient avoir raison. Cela pourrait être juste, cela pourrait être la même chose. Mais laissez-moi vous dire qu'il faut beaucoup de foi pour faire cela. Goûter le don céleste et qui a tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel vous avez été sanctifié. Prenons l'exemple d'un prédicateur. Sa mère l'envoie quelque part. Il dit, j'ai reçu un appel pour être un serviteur du Seigneur. Très bien, la première chose que je vais faire, mon chéri, c'est d'aller faire des lessives pour pouvoir t'envoyer dans une école. C'est la pire chose qu'elle ait jamais pu décider. C'est vrai. Ils retireront de lui tout ce que Dieu aura essayé d'y mettre. Maintenant, regardez. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, la connaissance, vous le voyez dans l'Écriture, et vous savez que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, voyez-vous, c'est la connaissance de la vérité, pour voir qu'ensuite, nous faisons demi-tour et tenons le sang de l'Alliance, un homme peut dire, oh oui, je crois en Dieu. Très bien, vous faites le premier pas. Bien sûr, je crois dans la sanctification. Très bien, vous êtes sur la frontière. Vous êtes prêt à recevoir le Saint-Esprit, mais vous regardez de l'autre côté et vous dites, « Ah, je ne suis pas sûr. Si je dois agir comme, ah, je ne sais pas. » Savez-vous comment on appelle ces gens? Je ne sais pas si je pourrais faire cela ou non. Non, je crois que j'irai simplement là-bas, que je me joindrai à la foule. Voyez-vous? Et savez-vous ce qui arrive? Il dit que ce sera impossible à ceux-là d'y entrer un jour. Ils ont péché et ont perdu leur dernière chance de salut. La Bible dit, je sais que c'est dur, mais la Bible dit, ceux qui ont goûté le don céleste et qui ont tenu le sang de l'Alliance par lequel, ils disent, je crois dans la sanctification, une vie propre et sainte, bien sûr, mais quand vous voyez le baptême du Saint-Esprit et le baptême et toutes ces autres choses dans la Bible, qu'avez-vous fait? Vous avez tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel vous avez été sanctifié. Au monde, qu'est-ce qui vous a amené ici? Qu'est-ce qui vous a amené empêché d'être un grand pécheur? Qu'est-ce qui à enlever le péché de votre vie, le désir de fumer, de boire, les femmes et autres, hors de votre vie, ces choses qui n'auraient pas dû y être. Qu'est-ce qui a fait cela? Le sang de l'Alliance. Alors, vous êtes venus assez près pour goûter aux raisins de l'autre pays. Et maintenant, vous avez honte de l'Évangile et peur de votre dénomination? Oh, Dieu, sois miséricordieux. Oui, monsieur, celui qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance et qui aura outragé les œuvres de la grâce, c'est impossible pour lui d'entrer un jour dans le pays. Qu'est-il arrivé? Je vous pose la question. Je suis un typologiste, et quiconque connaît la Bible est un typologiste. Un de ces hommes est-il entré une fois dans cette terre promise? Aucun d'entre eux. Qui alla de l'autre côté? Ceux qui les premiers y allèrent et revinrent en disant que nous pouvions le prendre. Nous pourrons avoir le Saint-Esprit, car Dieu l'a dit. Pierre dit le jour de la Pentecôte, que si je me repentais et que j'étais baptisé au nom de Jésus-Christ, je pourrais recevoir le Saint-Esprit. Car la promesse est pour moi, je suis prêt à le faire. C'est pour moi, la promesse m'appartient. Le comprenez-vous? La promesse m'appartient, je l'ai reçue, elle est à moi. Assurément, c'est le seul, oh vous dites mes frères Branham, à la résurrection, ils n'y seront pas. Oh, vraiment pas? Non, monsieur. Jésus dit, ils dirent, tu te fais aussi grand que Moïse. Et tu dis que tu as vu Abraham, et tu dis, et Abraham est mort, tu n'as pas plus de 50 ans, et tu dis que tu as vu Abraham. Il répondit, avant qu'Abraham fût, je suis. Oh là là, le je suis le Dieu éternel, toujours présent. Pas hier, pas demain, je suis. Voyez-vous, le Dieu toujours présent, le Elohim, le je suis. Alors ils prirent des pierres pour essayer de le tuer. Il dit, nos pères mangèrent de la manne dans le désert pendant 40 ans. Dieu fit pleuvoir du ciel du pain et les nourrit. Ils allèrent à l'église et ils furent de bons membres d'église pendant 40 ans. Ma vieille maman mourut dans cette église et tout comme cela. Mon père mangea de la manne dans le désert pendant 40 ans. Et Jésus répondit, elles sont tous morts. Mort signifie une séparation éternelle. Ils sont tous morts. Mais je vous dis que je suis le pain de vie qui vient de Dieu et qui est descendu du ciel. Si un homme mange de ce pain de l'Esprit, il a la vie éternelle et ne peut pas périr, et je le ressusciterai au dernier jour. Oh, frère, n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux, merveilleux, merveilleux? Jésus, notre Seigneur, n'est-il pas merveilleux? Les yeux ont vu, les oreilles ont entendu ce qui est enregistré dans la parole de Dieu. Jésus notre Seigneur n'est-il pas merveilleux? N'est-ce pas vrai? Nous voyons son esprit de discernement agissant au milieu de nous. Nous le voyons accomplir des miracles et des signes. Nous entendons ce qui est écrit dans la parole et nous le voyons confirmer là. Oh là là! Dans 2 ou 3 minutes, il y aura un service de baptême d'eau ici, et ceux qui vont être baptisés, que les femmes aillent ici et les hommes de ce côté. Ainsi les hommes à ma gauche de ce côté et les femmes par ici. Les sœurs y seront avec les habits nécessaires. Maintenant, si un homme ou une femme ici ce matin croit pleinement dans la parole de Dieu et que Dieu garde sa promesse, si cet homme se repent entièrement de tous ses péchés, maintenant le sang n'a encore rien fait. Non, c'est simplement votre foi en Dieu. Dieu appelle. Il vous appelle. C'est ce qu'il fait maintenant. Je n'ai jamais été baptisé. Si je peux commencer à agir différemment, c'est cela. Commencez. Ensuite, vous agirez différemment. Après que vous ayez commencé, voyez-vous, vous devez faire demi-tour et commencer. Voyez-vous? Vous dites, eh bien, je ne l'ai jamais vu du tout comme cela. Eh bien, mon cher frère, je veux que vous me montriez un passage de l'Écriture ou quiconque. J'ai proposé ceci pendant 31 ans de ministère autour du monde, devant des évêques, etc., leur demandant de me montrer où une personne aurait été baptisée une fois d'une autre manière que dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui n'avaient pas été baptisés au nom de Jésus, durent venir et être baptisés à nouveau au nom. Dieu avait seulement un nom, et son nom est Jésus. C'était son Fils. Il prit le nom de son Fils. Dieu, maintenant Jésus, le corps était un homme. Nous savons cela. C'était le Fils de Dieu qui était couvert de son ombre. Toutefois, nous ne croyons pas comme les unitaires qui disent que Dieu est comme votre doigt. Nous croyons qu'il y a trois attributs de Dieu. Trois attributs de Dieu. Dieu manifeste dans, mais il y a seulement un Dieu. Voyez-vous, c'est vrai. Nous ne croyons pas, laissez-moi le dire ainsi, c'est vrai. Nous ne croyons pas, laissez-moi le dire ainsi. Nous croyons que Dieu vécut dans trois dispensations. Il eut une fois un office sur la terre. Maintenant, vous, les dames, entrez de ce côté et vous, les hommes, allez de cet autre côté. Préparez-vous. Il se prépare maintenant pour un service de baptême. Ainsi, Dieu eut trois offices. Il eut celui du Père ou dispensation du Père. Il eut celui du Fils et celui du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans quelle dispensation le Père agit-il? Le Saint-Esprit. Qu'était-il dans le passé? Jésus. Qu'était-il encore avant cela? Mais ce n'était qu'un seul Dieu. Est-ce vrai? Père, Fils et Saint-Esprit. Ces trois, ce sont trois offices d'un seul Dieu. Un Dieu. Mais maintenant, Père n'est pas un nom, n'est-ce pas? Je veux vous poser une question. Maintenant, je veux vous citer Matthieu 28, 19, où Jésus a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, N-O-M, nom du Père. » Maintenant, je veux voir si vous connaissez bien votre Bible. Arrêtez-moi si je me trompe. Elle leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce juste? Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Maintenant, je vais vous citer Matthieu. Écoutez, je demande à n'importe quel historien. Maintenant, ceci est sur bande. Ainsi, cela ira dans le monde entier. Je demande à n'importe quel historien de venir vers moi et de m'apporter n'importe quel passage de l'Écriture, n'importe quel texte, n'importe quel passage de l'Écriture, n'importe quel traité d'histoire, n'importe quel passage de l'histoire qui montre qu'un protestant, que quelqu'un ait été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit jusqu'à ce que l'Église catholique l'ait prescrit au Concile de Nicée. Maintenant, c'est sur bande et celles-ci vont partout dans le monde. Elles sont traduites dans 37 langues différentes. Je vous paierai la traversée de l'océan, c'est vrai. Père, Fils et Saint-Esprit est un dogme catholique faux et erroné, et pas un baptême chrétien. C'est vrai. Luther l'apporta de l'Église catholique avec le catéchisme. Wesley l'adopta et continua. Mais nous arrivons au jour de la manifestation des Fils de Dieu, quand les mystères cachés depuis la fondation du monde doivent être révélés. C'est cette heure-ci. Et souvenez-vous qu'il n'y a jamais eu de personne dans la Bible qui était baptisée au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Pendant 300 ans après la mort du dernier apôtre, il n'y eut personne de baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. J'ai lu à la fois les pères prénicéens, le concile de Nicée, et depuis là, ils organisèrent ce qu'ils appellent l'Église chrétienne universelle, en firent une organisation et imposèrent ses dogmes à tous les gens. C'est l'Église catholique. Le mot catholique signifie lui-même universel. Une Église chrétienne universelle, mondiale. Une Église pour dominer le monde et son christianisme. Ils l'imposèrent aux gens. Dans cette Église, ils adoptèrent, ils enlevèrent Vénus et mirent à la place Marie. Ils enlevèrent Jupiter et mirent Paul. C'est toujours païen. C'est vrai. L'Église catholique sort de là et après 500 ans, ils sont maintenant en train de passer à Louisville le film de Ben-Hur. Il n'y a pas longtemps, ils ont projeté les 10 commandements. Je souhaiterais qu'ils en fassent un, s'ils le pouvaient, sur les 1500 années d'âge sombre. Je souhaiterais qu'ils le fassent. 1500 ans de persécution païenne pendant lesquelles ils imposèrent cela à tout le monde. Tuèrent les chrétiens, les massacrèrent et les pendirent. Ils attachaient une main à un bœuf, l'autre à un autre, et s'ils ne baisaient pas le crucifix, ils étaient écartelés, chaque animal tirant de son côté. En Suisse, j'ai eu l'occasion de toucher l'un des montants où ils se tenaient pour leur couper la langue, les appelant des sorciers et tout le reste. Exactement vrai. Et ce même esprit existe aujourd'hui. Il n'y a que la loi qui l'empêche d'agir. Mais attendez seulement qu'il reçoive sa liberté. La Bible dit. Attendez jusqu'à ce qu'il monte sa couleur, s'il en a l'occasion. Vous la lirez peut-être bientôt, qui sait. Cela viendra. Il n'y aura pas moyen de l'empêcher d'entrer. Cela doit arriver, c'est vrai. Cela doit arriver. Ainsi, lorsqu'il apparaîtra, surveillez-le. Mes frères, vous devez savoir ceci. Je sais en qui j'ai cru. C'est pourquoi je continue à marcher de l'avant. Voyez-vous, c'est cela. Il y a un temps, quand je parlais à l'auteur de la Bible, Lamza, qu'il regarda et vit cet ancien signe de Dieu, exactement, contenant ces trois petits points. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il répondit, c'est Dieu en trois attributs. Je lui dis, tel que Père, Fils et Saint-Esprit. Il me regarda et dit, croyez-vous cela? Je lui répondis, oui, monsieur. Il dit, j'ai vu ces discernements l'autre soir, alors j'ai pensé que vous étiez un prophète du Seigneur. Il dit encore, que Dieu vous bénisse. Elle passa son bras autour de moi et dit, maintenant je sais que c'est de Dieu. Il dit, ces Américains ne savent même pas, ils ne savent même rien du tout. Ils essayent de prendre un livre oriental pour en faire un livre occidental. Ils ne connaissent même pas leur Bible. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné, aucun autre nom dans lequel quelqu'un était baptisé, si ce n'est celui de Jésus-Christ. Il n'écrit nulle part qu'il y ait trois personnes en un Dieu. Ce sont là les paroles de frère Lamza, docteur Lamza, le traducteur de la Bible Lamza, lequel est un ami d'enfance d'Eisenhower et de tous les grands diplomates du monde et de beaucoup d'autres. Il jeta ses bras autour de moi et dit, « Un jour, ils vous tueront pour cela. » Mais dit-il, « Souvenez-vous que tous ces gens meurent pour un motif. » J'aimerais être comme le vieux Pierre. Lorsqu'il était assis en prison, il y avait là un jeune garçon. Il était très inquiet. Et Pierre lui dit, « Oh, qu'y a-t-il ? » Il répondit, « Tu sais que tu vas être exécuté. » Pierre dit, « Oui. » Il dit, « Eh bien, tu vas bientôt mourir aujourd'hui. » Pierre dit, « Oui. » Il dit, « Mais, n'as-tu pas peur ?» Il répondit, « Non. » Il dit, « Alors, tu dois être un de ceux qu'on appelle chrétiens. » Il répondit, « Oui. » Il dit, « Qu'est-il arrivé ?» Elle lui raconta. Il s'assit et lui raconta l'histoire. Et comme il continuait, il dit, « Elle aurait pu être libre ce matin. J'aurais pu aller me joindre à l'une de leurs dénominations et continuer à vivre. Vois-tu, maintenant, je pourrais être en liberté. Mais alors que je passais la porte de cette ville, je vis quelqu'un qui entrait. Je sus qui c'était. Je lui dis, « Seigneur, où vas-tu ?» Il répondit, « Je retourne pour être à nouveau crucifié. » Je lui dis, « Je vais immédiatement revenir. » À ce moment-là, ils dirent, « Qui s'appelle Simon-Pierre ?» Il répondit, « Me voici. »